just kick back, smoke a fat ass joint.
Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous retrouvez 99.3 à l'antenne de Digne pour ce quartier libre un peu particulier et j'espère très intéressant avec un invité que je vous présente tout de suite et que je suis ravie d'accueillir, Joël Delannoy. Bonjour.
Bonjour.
Alors Joël, vous venez nous parler des compteurs ERDF Linky. L-I-N-K-Y, dont on ne cesse de parler. Et vous allez nous dire pourquoi vous avez tenu à venir nous en parler en direct à l'antenne. Quelles sont les motivations qui vous poussent à être présent aujourd'hui et de quoi vous allez nous parler?
Mes motivations, c'est essentiellement ne pas être obligé d'utiliser le compteur Linky et convaincre mes concitoyens et le plus de monde possible que ce compteur Linky, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Alors, je ne suis pas expert dans la matière. Il y en a qui diront, mais ce monsieur, il est psychiatre à la retraite, qu'est-ce qu'il vient nous parler de l'électricité? Effectivement, je ne suis pas expert. Je pense qu'il faut se méfier des experts, parce qu'il y en a deux sortes. Il y a des experts indépendants qui ne sont pas financés, qui sont pauvres et qui ont peu de moyens de se faire entendre. Si on veut connaître leurs travaux, il faut les chercher. Et notamment sur Internet, parce que finalement, Internet, c'est une plateforme sur laquelle on peut assez facilement faire connaître ses travaux, son point de vue, son opinion. Et l'autre catégorie d'experts, c'est les experts qui sont inféodés aux industriels. Alors ceux-là, ils ont tous les moyens de financiers à leur disposition et les appuient pour se faire connaître, pour donner leur avis. Et bien sûr, c'est un avis qui fait la part belle aux industriels qui les financent. Par exemple, le directeur de l'AFSE. Alors l'AFSE, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire et environnementale. Il a reconnu publiquement que les experts qui avaient rédigé des rapports rassurants sur le téléphone portable étaient liés aux opérateurs. C'est souvent comme ça. Il y a des tas d'experts qui sont liés aux industriels. C'est ainsi que, par exemple, les experts ont dit que l'amiante, c'était un merveilleux matériau de construction. C'est pour ça qu'entre le moment où on s'est aperçu que c'était toxique et le moment où on l'a interdit, il s'est écoulé 30 ans.
Oui, c'est quand même un laps de temps un peu long pour réagir, on va dire.
C'est aussi comme ça que des experts du tabac ont dit que, mais non, le tabac, mais pourquoi? Mais non, ça n'a jamais provoqué le cancer du poumon, le tabac. Et ça a duré des années comme ça. C'est comme ça aussi que, voilà, pour le Mediator, ça a été un peu moins long, mais il y a aussi des experts qui ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec le Mediator.
Qui était un médicament, hein?
Qui était un médicament qui a causé le fameux scandale du Mediator avec des problèmes cardiaques. Hein, ça, c'était il n'y a pas longtemps. Hein.
Donc ça, c'est un problème que les experts soient effectivement liés aux opérateurs.
Ah ben, c'est un sacré problème. Ça devrait être une incompatibilité. Bien. Mais ça n'en est pas une. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ça? Eh bien, parce que j'étais psychiatre. À ma retraite, je me suis intéressé à la géobiologie, à la médecine quantique. J'ai fait des formations au cours desquelles j'ai rencontré des personnes électro-hypersensibles.
Alors, qu'est-ce que c'est une personne électro-hypersensible, même si son nom nous met bien
Eh bien, ce sont des personnes qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Et bien souvent, avant qu'on pose le bon diagnostic, et avant que eux-mêmes, souvent, posent le bon diagnostic, ils avaient été considérés comme dépressifs. Ils avaient des maux de tête, une fatigue chronique, difficulté de concentration, palpitations, douleurs musculaires, insomnie, vertige. Enfin, tout ce qu'il faut pour poser un diagnostic de dépression, quoi. Il y a moyen de se tromper, donc, d'autant que l'électrosensibilité, c'est quelque chose qui est d'apparition relativement récente. C'est apparu avec les technologies sans fil. Et en plus, ça fait l'objet d'une désinformation par les lobbies des nouvelles technologies. Donc, on n'en parle pas. Alors, moi, je suis retraité depuis 8 ans. Je me suis demandé si moi aussi, j'avais pas fait d'erreur de diagnostic dans les derniers temps de mon activité. Je m'y suis donc intéressé de près. Alors, apparemment, les électro-hypersensibles, ils ont une prédisposition à le devenir, probablement, puisque tout le monde ne devient pas hypersensible. Mais ils ne le deviennent qu'à force d'être exposés aux ondes électromagnétiques. Et apparemment, l'expérience prouve que plus ils y sont exposés, plus la sensibilité se développe, au point de devenir carrément invalidante.
Alors ça, c'est un sacré souci, parce qu'on le sait, tout le monde maintenant, avec les téléphones portables, la Wi-Fi, comment, il y a des solutions pour ces personnes-là?
Les solutions, non, il n'y en a pas beaucoup des solutions. Ce sont des gens qui, très rapidement, ils sentent dans leur corps, par leur malaise qui s'insinue dans leur corps, s'il y a à proximité un téléphone sans fil, un portable allumé, s'il y a le Wi-Fi. Souvent, ils vivent chez eux un peu cloîtrés. Ils ont mis des grillages en face des fenêtres ou des films aluminisés reliés à la terre pour s'isoler, pour se mettre un peu dans une cage de Faraday. Il y en a certains qui sortent, quand ils sortent, avec sur la tête un textile métallisé pour se mettre à l'abri des ondes. Dans les cas graves, ils sont obligés de se réfugier dans les rares zones blanches qui existent encore en France, plein milieu du Massif central, en Lozère, en Corrèze, enfin, dans ces endroits perdus où le téléphone ne passe pas encore partout.
Est-ce qu'il y a un chiffre de personnes hypersensibles aux ondes électromagnétiques ?
Je n'ai pas le chiffre, je ne peux pas dire. Je sais qu'il y en a pas mal. Il y en a même qui décident carrément de partir en Afrique. Parce que en Afrique, les technologies ne sont pas développées comme chez nous. Hein. Alors, ça, ce sont les électro-hypersensibles. Mais on pourrait raisonnablement supposer que nous sommes tous électrosensibles à des degrés divers. Et que même si nous ne savons pas à quoi attribuer certains de nos malaises, peut-être que c'est dû aux ondes. Nous sommes entourés d'un brouillard électromagnétique qu'on appelle aussi l'électrosmog. Alors il y a le Wi-Fi, le téléphone sans fil, le CPL. Alors le CPL, c'est ces petits boîtiers qu'on branche sur le secteur pour éviter d'installer des câblages Ethernet dans la maison. On branche un truc sur la prise, on branche la box par exemple sur la prise électrique par l'intermédiaire d'un petit boîtier, et à l'autre bout de la maison, on branche l'ordinateur sur le même petit boîtier qui est à l'autre bout. Et Ethernet passe par le secteur. Bon, c'est ça le CPL. À côté de ça, il y a les relais de téléphonie mobile qui sont parfois sur le toit même des habitations, sur le toit des HLM. Ensuite, il y a notre propre portable qu'on utilise, qui nous envoie des ondes. Il y a la TNT aussi. Et le Linky, il va venir en rajouter une couche, encore supplémentaire, sans aucune protection. Alors, qu'est-ce que c'est que le Linky ? Comment ça marche ? C'est un objet connecté qui ne fait pas qu'envoyer des données de consommation. Il se connecte sur les puces qui sont installées depuis quelques années sur tous les nouveaux appareils électroménagers. Ça, en général, les gens ne le savent pas. Moi non plus, je ne le savais pas. Quand on achète un appareil électroménager neuf, il y a des puces dedans. Et le Linky, qui, je le rappelle, est déjà installé dans certaines villes, comme Paris et Lyon, il y a déjà des Linky d'installés. Le Linky recueille des informations très précises. Ces données transitent par les câbles électriques de votre maison par l'intermédiaire d'un courant porteur en ligne, CPL, qui est envoyé sur votre réseau domestique 24 heures sur 24. Il s'agit de courants de fréquence 390 kHz, c'est-à-dire 390 000 Hz. Ce sont des signaux carrés qui se superposent aux 50 Hz du secteur. Alors, les installations électriques domestiques ne sont absolument pas conçues pour ces fréquences, car les câbles ne sont pas blindés.
Donc, ça veut dire qu'il faut changer tout le circuit électrique d'une maison, déjà.
Ça veut dire que si on voulait accepter le Linky sans danger, il faudrait effectivement refaire tout le circuit électrique des maisons avec des câbles blindés. Des prises blindées, des interrupteurs blindés, des boîtes de dérivation blindées. Bref... ça coûterait très cher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fréquence du CPL du Linky est à peu près du même ordre que la fréquence des stations de radio en modulation d'amplitude de style RTL, par exemple. On peut donc en conclure que le CPL rayonne partout, chez les gens, chez vous, par tous les câbles, les prises, les interrupteurs, les lampes de chevet, tout. Tous ces conducteurs sont transformés en antennes. Et ce rayonnement est à un niveau très largement supérieur aux 0,6 volts par mètre qui sont recommandés par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Alors, les volts par mètre, c'est la tension qu'on peut mesurer dans l'atmosphère, en quelque sorte, entre deux points séparés d'un mètre. Et ce rayonnement, il est de plus en signaux carrés. C'est-à-dire, ce n'est pas des belles sinusoïdes, c'est des signaux carrés.
Et donc, alors, ça veut dire quoi ?
Eh bien, ce sont des signaux... Si on regarde le signal, au lieu de voir une belle sinusoïde en forme de vague, on voit des crêtes, des signaux carrés. Ça monte instantanément, il y a un plat, puis ça redescend, puis etc. Ce sont des signaux carrés. Et il faut savoir que ces signaux carrés sont apparemment beaucoup plus toxiques que les ondes sinusoïdales. Par ailleurs, il faut savoir que les ondes électromagnétiques sont classées cancérogènes probables par l'OMS. Alors, une fois que le Linky a reçu des données sur quel appareil fonctionne, combien il consomme, Linky les envoie toujours par CPL à un appareil qui s'appelle un concentrateur et qui est installé sur le transformateur EDF le plus proche. De là, elles sont transmises à ERDF par un émetteur GSM, c'est-à-dire, alors GSM ça veut dire Global System for Mobile Communications, c'est-à-dire un émetteur de téléphonie mobile. Vous aurez donc près de chez vous un nouvel émetteur téléphonique. Il est prévu d'en mettre 700 000, rien que pour le Linky, en France. Voilà. Voilà comment marche le Linky. Enfin.
Alors, donc les bénéfices pour les consommateurs, c'est quoi ?
À l'origine, EDF disait « Vous allez pouvoir surveiller votre consommation ». Et c'est vrai qu'à l'origine, ERDF avait prévu, comme en Grande-Bretagne, puisque ERDF installe des compteurs en Grande-Bretagne, de mettre à disposition des consommateurs des petits boîtiers qui étaient branchés sur le secteur que vous pouviez avoir dans la cuisine et qui vous indiquaient en direct votre consommation, instantanée. Bon. Ça a quand même un intérêt un peu limité de savoir combien on consomme en direct. Ça peut donner une indication sur ce qu'on consomme, peut-être freiner un peu certaines consommations. Bon, enfin, on va pas passer sa vie à surveiller sa consommation non plus. Hein. On regarde plus facilement la télé que le compteur. C'était un petit avantage qu'il y avait. Les autres fournisseurs d'électricité, puisque maintenant il y a la concurrence, s'y sont opposés à ce petit boîtier. Ils s'y sont opposés parce qu'ils avaient envie de le louer, de le proposer à la location, 6 euros par mois. Donc, ils n'ont pas voulu que l'EDF le mette parce qu'eux, ils avaient envie de gagner de l'argent en louant le petit boîtier. Donc, le petit boîtier, ben, vous ne l'aurez pas. Et puis, d'ailleurs, payer 6 euros par mois pour faire des économies, c'est quand même... Il faut oser le proposer quand même.
Alors, s'il n'y a pas de location, ça veut dire quoi ? Qui paye l'installation, si c'est autorisé ?
Si quoi est autorisé ?
L'installation d'un compteur Linky.
Ah, ben ça, l'installation du...
Parce que ça coûte très cher.
Bah, le compteur Linky, on va vous dire qu'on vous l'installe gratuitement. Mais ça, je veux dire, c'est comme le marchand de légumes. Il vous vend les pommes de terre, il ne vous facture pas le sac. Hein, mais le sac, il est compris dans le prix. Ben évidemment que c'est au final, c'est évidemment le consommateur qui paiera le prix du compteur et qui paiera aussi son remplacement. Parce qu'il ne faut pas rêver, les appareils électroniques, ça ne durera pas aussi longtemps que les bons vieux compteurs qui fonctionnent depuis 50 ans dans le fond de votre garage. Et ils sont peut-être couverts de toiles d'araignée et de poussière et ils marchent toujours. On ne peut pas espérer la même durée de vie des nouveaux compteurs électroniques. Donc il faudra bien les remplacer, et qui va les payer ? Ben, même si on ne vous présente pas la facture, de toute façon, ça sera compris dans le prix, dans la facture d'électricité. Alors, en ce moment, il y a un battage publicitaire d'enfer fait par ERDF sur les médias. On vous dit que le compteur Linky est obligatoire.
C'est faux.
C'est faux. On vous dit qu'il va vous faire faire des économies. C'est faux. On vous dit qu'il est en danger parce qu'il envoie des données une fois par jour. C'est faux. Tout est faux. Alors, obligatoire. C'est faux. Hier, il y avait 11 communes qui l'avaient refusé sur leur territoire. Aujourd'hui, il y en a 12. Parce qu'il se trouve que les communes sont quand même propriétaires des installations et qu'elles peuvent parfaitement s'opposer à l'installation du Linky sur leur territoire, et notamment des concentrateurs. Et sans concentrateur, pas de Linky. On peut aussi le refuser à titre individuel. Ceci dit, pour se protéger des radiations, refuser le compteur à titre individuel, c'est très bien si on vit dans une villa. Si on vit en habitat collectif, c'est plus compliqué, parce que les ondes CPL du Linky traversent les murs. Et si vous n'avez pas les vôtres, vous aurez celles du voisin. Donc il y a un véritable travail d'information à faire auprès du voisinage pour que ce soit tous les meubles qui refusent le Linky. Alors, quand je dis le Linky n'est pas obligatoire, il y a des gens qui me disent « mais si, c'est pas vrai qu'il n'est pas obligatoire ». Bon, la preuve qu'il n'est pas obligatoire, c'est qu'il y a des documents internes d'EDF qui ont été obtenus, j'imagine, par des dissidents, hein, des gens qui travaillent EDF et qui ne sont pas contents d'EDF, je suppose. Il y a des documents internes d'EDF qui attestent qu'environ 1% des particuliers jusqu'à présent ont refusé le Linky et qu'ils ne l'ont pas eu. D'ailleurs, il semblerait que ce soit anticonstitutionnel d'imposer un objet connecté à quelqu'un. Deuxième preuve, c'est que ERDF a déjà prévu un tarif pour le relevé manuel. Il a prévu de vous faire payer chaque mois pour le relevé manuel, qui habituellement a lieu tous les 6 mois. Et ils espèrent vous faire renoncer en imposant un tarif qui me semble abusivement dissuasif.
Et qui est de
19 euros par mois.
Ah oui, c'est certainement abusif.
C'est certainement abusif, surtout si on ne relève en fait que tous les 6 mois, comme actuellement. Mmh. Alors, on peut espérer que ce tarif sera contesté par les associations de consommateurs. Et puis, de toute façon, on verra plus loin que même si ce tarif n'est pas contesté, même s'il faut le payer, avec les économies qu'on fera sur la surfacturation, on rentrera dans ces frais. Ça, mais ça, je vous en parlerai après. L'EDF dit que le Linky est inoffensif parce qu'il n'envoie des données qu'une fois par jour. Bon, moi, je... EDF tient des propos tellement contradictoires que, bon, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Linky ne fait pas qu'envoyer des données de consommation, il en envoie plus qu'une fois par jour. Il reçoit des données en envoyant du courant CPL dans toute votre installation 24 heures sur 24. Voilà. Alors, il n'y a eu aucune étude d'impact officielle faite sur la santé.
On parle de risque d'incendie aussi. Est-ce que ça peut être plus facteur à risque ?
Alors, effectivement, on a parlé de risque d'incendie. Bon, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais je vais en parler maintenant. Les incendies, eh bien, il y a des compteurs connectés qui ont été installés au Canada, dans l'État de l'Ontario. Alors, il faut savoir que ces compteurs qui ont été installés dans l'État de l'Ontario, ils sont fabriqués par la société Landis+Gyr. Et la société Landis+Gyr fabrique aussi une partie des compteurs Linky. Et il y a effectivement eu beaucoup d'incendies dus à des compteurs en Ontario. Et on a cessé de les installer parce qu'il y a eu des milliers de plaintes et on a commencé à les démonter. Voilà. Bon, ça pour les incendies.
Juste pour faire un petit retour en arrière, depuis quand ces compteurs sont installés et dans quel pays ou ville en premier ?
Alors, c'est pas tous des compteurs Linky dans les autres pays. Hein. C'est des compteurs, ils s'appellent pas Linky.
Mais c'est
des compteurs similaires qui sont relevés à distance. Ça permet d'éviter les relevés manuels. Je sais qu'ils ont été refusés en Allemagne, refusés en Belgique, mais qu'au Canada, on en a installé. Alors, depuis quand exactement, je ne sais pas. C'est une information qui est très certainement disponible sur Internet. Et je vous en, j'invite les auditeurs à chercher. D'ailleurs, tant que j'y suis, puisque je les invite à quelque chose, je les invite aussi à prendre un crayon et un papier, parce que tout à l'heure, je vais leur donner des tas de lieux, enfin des tas d'adresses Internet où ils vont pouvoir trouver plein d'informations, celles que je donne et puis bien d'autres. Alors, il n'y a eu aucune étude d'impact officielle sur la santé. On a lancé ça sans savoir si ça allait être bon ou pas pour la santé. Enfin, inoffensif ou pas. ERDF n'a pas commis la même erreur que les opérateurs téléphoniques. En 1998, les opérateurs téléphoniques voulaient démontrer l'innocuité du portable. Et ils avaient commandité une étude qui s'appelle l'étude Comobio. Comobio, C-O-M-O-B-I-O. Vous la trouvez sur Internet. Cette étude Comobio, qui était censée démontrer l'innocuité du portable, a démontré exactement le contraire. Du coup, elle a été enterrée. On n'en a plus parlé. Alors, si vous tapez Comobio sur Internet, vous allez voir que des expérimentations ont été faites en exposant des rats à des niveaux d'émissions d'ondes tout à fait ordinaire, tout à fait comparable aux émissions que vous recevez quand vous téléphonez avec votre portable. Et quand on a ouvert la tête des rats et qu'on a découpé leur cerveau en rondelles pour voir dans quel état il était, eh bien, on a constaté de nombreuses lésions. Alors, ben, les experts qui avaient commandité et qui étaient à la solde des opérateurs, ils étaient bien embêtés. Et ils ont dit, oui, mais bon, le crâne du rat, il est moins épais que le crâne de l'humain, donc on peut pas transposer, etc., etc. Voilà, bon, circuler, il n'y a rien à voir, et puis d'abord, on va pas diffuser, et puis on vous coupe les crédits, vous continuez pas votre étude. Voilà. Tout ça, si vous tapez Comobio sur Internet, vous allez voir une vidéo qui explique tout ce qui a été fait comme étude et qui vous met en scène les divers protagonistes, ceux qui ont fait l'étude et les experts qui ont refusé de la diffuser. Alors, certes, les rats ont un crâne plus fin. C'est peut-être pour ça qu'eux, ils sont malades. Mais alors, et les enfants? Ils n'ont pas un crâne plus fin, les enfants? Ah! Alors, après le film Comobio, vous verrez aussi, après l'étude Comobio proprement dite, vous verrez aussi qu'il y a eu d'autres études qui ont été refaites avec le même protocole en Suède et qu'elles ont eu les mêmes résultats. Et vous verrez aussi une étude statistique suédoise d'un dénommé Hardell, professeur Hardell, qui a fait des études sur les probabilités de tumeurs cérébrales. Donc il a fait des études sur les gens qui avaient eu des tumeurs cérébrales. Et il a constaté que les enfants qui ont eu en leur possession un téléphone portable avant l'âge de 20 ans ont 5 fois plus de risques d'avoir une tumeur cérébrale que les autres. Alors effectivement, il est bien possible que l'épaisseur du crâne ait une importance. Et puis, ce qui est possible aussi, c'est que l'immaturité cérébrale des enfants ait une importance. En tout cas, voilà. Si vous donnez un téléphone à votre enfant avant l'âge de 20 ans, vous multipliez par 5 le risque qu'il ait une tumeur cérébrale. Alors, il n'y a pas eu que sur les rats qu'il y a eu des études. Il y en a eu aussi sur les poulets, sur les œufs. Ben, poser un téléphone portable sur une couvée d'œufs, les œufs meurent presque tous. Alors, vous pouvez là aussi taper, c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre un crayon, AFSE. Alors. AFSSE, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'Agence française de sécurité et de santé environnementale. Hein. Vous tapez AFSE, AFSSE, et après vous tapez YouTube ensemble. Et vous allez tomber sur un article qui s'appelle « Antenne relais, le scandale de l'AFSE ». Et là aussi, vous allez en apprendre de belles. Des gens qui avaient à côté de chez eux qui ont vu un jour, à côté de chez eux, l'installation d'un pylône téléphonique. Et ces gens qui avaient un élevage de poulets, et qui réussissaient très bien, ils avaient 80% de réussite, ils ont eu 80% de pertes. Voilà. Et puis, il n'y a pas eu que ça. Je vous laisse regarder, parce qu'ils ont eu aussi des problèmes dans leur famille. Notamment une tumeur cérébrale chez une fille. Non, pardon, pas une tumeur cérébrale, je fais une erreur. Une leucémie chez une de leurs filles. Alors, il n'y a pas eu d'études préliminaires de fait pour le CPL, du Linky, mais nous disposons de lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ce sont ces gens qui sont électro-hypersensibles et qui savent très bien que dans les zones où le Linky est déjà installé, le CPL du Linky leur provoque encore plus de malaise que le Wi-Fi. Avec le Wi-Fi, ils n'arrivaient pas à dormir. Avec le CPL du Linky, c'est pire. Alors, je vous ferai remarquer qu'on a interdit le Wi-Fi dans les crèches, mais que le CPL sera partout dans les chambres des bébés. Où est la logique de tout ça ? Je vous le demande. Alors, on connaît désormais le mécanisme de toxicité des ondes électromagnétiques. Si vous voulez la voir en détail, là encore, je vais vous donner une adresse. Robin des Toits. Comme Robin des Bois, mais Robin des Toits, comme des toitures. Robin des Toits. Et quand vous êtes sur le site de Robin des Toits, alors Robin des Toits, vous le tapez sur Google ou sur Bing ou sur votre
moteur de
recherche préféré. Vous tapez Robin des Toits. Et quand vous êtes sur le site de Robin des Toits, vous tapez Martin Pâle. Martin, comme le prénom, Martin Pâle, P-A-L. Alors en fait, c'est Martin Paul, parce que c'est un Américain qui travaille à l'université de Washington, je crois. Et il a découvert le mécanisme de la toxicité des ondes électromagnétiques. Et c'est un mécanisme qui n'a rien à voir avec un effet thermique. Parce que longtemps, les experts français, à la solde des opérateurs, ont dit le téléphone portable, avec le niveau d'irradiation qu'il a, ça ne peut pas chauffer le cerveau, donc ça ne peut pas être toxique. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec un effet thermique. En fait, les ondes électromagnétiques perturbent la barrière hématocellulaire qui filtre les échanges entre le sang et le milieu intracellulaire. À travers cette barrière hématocellulaire, il y a des tas de choses qui passent. L'oxygène qui va alimenter les cellules, le gaz carbonique qui repart dans le sang pour que le sang l'élimine, des substances nutritives, des ions, des oligo-éléments, etc. Eh bien, les ondes électromagnétiques ouvrent ce qu'on appelle les canaux calciques. Les canaux calciques, ce sont les canaux qui règlent le passage du calcium de l'intérieur vers l'extérieur des cellules ou inversement. L'ouverture des canaux calciques provoque un excès de calcium dans les cellules. L'excès de calcium provoque l'apparition d'oxyde d'azote, NO, et l'oxyde d'azote se transforme en peroxynitrite, dont la formule est O, NOO-, avec tous ces atomes d'oxygène dans sa formule, vous imaginez que c'est un oxydant absolument redoutable. En fait, du fait de cette présence, il y a des radicaux libres qui se libèrent, ça provoque un stress oxydatif et la mort cellulaire. Et bien sûr, c'est particulièrement inquiétant en ce qui concerne la barrière hémato-encéphalique entre le sang et les neurones. De plus, il y a un lien avec les toxiques chimiques de notre environnement, qui, du fait de l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, pénètrent plus facilement dans des cellules où ils n'ont rien à faire. Tous ces insecticides, tous ces solvants, tous ces produits qui sont dans notre environnement et qui n'ont rien à faire dans nos cellules, pénètrent plus facilement du fait de l'ouverture de cette barrière hémato-encéphalique. Et on constate que les électro-hypersensibles, non seulement ils sont sensibles à l'électricité, aux ondes, mais ils sont aussi sensibles plus aux substances chimiques. Alors, pour ce qui est de la sensibilité à l'électricité, il faut savoir que nos cellules fonctionnent à l'électricité. Il faut savoir que entre l'extérieur d'une cellule et l'intérieur d'une cellule, il y a une différence de potentiel, une différence de tension qui est de l'ordre de 80 millivolts. Et chaque fois qu'un neurone décharge, enfin chaque fois qu'un neurone, c'est-à-dire une cellule cérébrale, donne une information, eh bien le potentiel, la différence de potentiel de sa membrane change. Alors il n'y a évidemment pas lieu de s'étonner que toutes ces ondes dont on nous abreuve, dont on nous inonde, aient une influence sur le fonctionnement cellulaire. Ça ne peut pas être autrement, il ne pourrait pas en être autrement. Alors, si vous avez des intolérances à certains produits, par exemple, vous apercevez que vous ne supportez plus la peinture, demandez-vous si la peinture en est la seule responsable, ou bien si par hasard, vous aussi, vous n'êtes pas un peu électro-hypersensible. On peut peut-être faire une petite pause.
C'est exactement ce que je voulais vous proposer, Joël. Joël Delannoy, donc présent sur Fréquence Mistral, pour nous parler du compteur Linky et de son installation. Et on va tout de suite faire une pause musicale et on se retrouve bien sûr juste après pour encore et encore des renseignements. Alors on écoute tout de suite Jim Boyd, Inkelium.
Inkelium is in my heart, and the people there are in my soul.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral 99.3, l'antenne de Digne, et nous sommes toujours en compagnie de Joël Delannoy, qui est un citoyen lambda, un retraité de l'hôpital de Digne, de l'hôpital psychiatrique, et qui nous l'expliquait en début d'émission, si vous avez manqué le début, le pourquoi, son intérêt, son investissement pour informer les gens des inconvénients et des problèmes que peuvent engendrer les installations du compteur ERDF Linky. Alors on va revoir, donc on a vu que ça pouvait poser des problèmes sur la santé pour les électro-hypersensibles, mais aussi pour tout le monde, puisque ça quand même a été prouvé sur des rats, vous l'expliquiez, et vous donniez des références qu'on indiquera aussi sur le site quand on mettra en ligne l'émission. Il y a beaucoup de moyens de se renseigner sur les côtés défavorables de ces installations de compteurs. Et là, vous vouliez donc nous parler des arnaques, justement.
Alors, jusqu'à présent, j'ai donc parlé de la nocivité du compteur Linky sur la santé. J'ai aussi parlé du fait que, contrairement à ce que dit EDF, on peut parfaitement refuser le compteur Linky. Du reste, il y a déjà 12 communes qui l'ont refusé sur leur territoire. Et en plus, on peut très bien le refuser à titre individuel. Bon. Là, maintenant, ce dont je vais parler, c'est pourquoi le compteur Linky, au point de vue financier, c'est une arnaque. On vous a dit que le compteur Linky allait vous permettre de faire des économies. C'est un absolu mensonge. Bon, d'abord, le compteur Linky va envoyer des ondes partout dans votre maison par l'intermédiaire de tout votre réseau électrique, que ce soit les câbles qui sont dans les murs, les prises, les interrupteurs, vos lampes, vos ampoules, vos appareils. Il va envoyer des ondes partout. Et envoyer des ondes, ben, ça consomme du courant, évidemment. Donc, déjà là, l'économie, on se demande où elle est. Ensuite, les compteurs électriques, comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont sûrement pas la durée de vie qu'ont les compteurs, que les vieux compteurs à roues ont et qui fonctionnent sans défaillir depuis 50 ans. Ça ne sera sûrement pas le cas. Et il faudra bien les payer, hein. Que ce soit directement ou indirectement inclus dans le prix de l'électricité, de toute façon, il faudra les payer. Mais tout ça, ce n'est pas grand-chose à côté du nouveau système de comptage de l'énergie. Parce que ERDF passe du comptage en watts au comptage en volts-ampères. Alors, je pourrais me contenter de vous dire que les factures vont augmenter de 10 à 20% selon les cas et que certains consommateurs vont devoir demander une augmentation de puissance pour leur abonnement EDF. Bon, mais moi, je n'aime pas asséner des vérités aux gens sans expliquer. Alors, à la radio, c'est un peu difficile d'expliquer ça, sans schéma, ça va être un peu dur, mais je vais quand même essayer. Alors, je vais essayer de faire simple. Vous avez presque tous roulé en vélo. Et beaucoup ont eu sur leur vélo une dynamo. Vous savez, cette dynamo, c'est ce petit truc qui se colle sur la roue.
Et qui ralentit un peu quand on pédale.
Qui freine un peu quand on pédale. Et qui tourne et qui vous permet d'allumer devant le phare et derrière le feu rouge. Alors, moi, quand j'étais enfant, j'ai eu la curiosité d'ouvrir une dynamo pour voir comment ça marchait. Alors, comment ça marche? Eh bien, il y a un aimant qui tourne devant une bobine électrique. Cet aimant qui tourne, il passe ses pôles nord, puis sud devant la bobine, et il suscite aux bornes de la bobine l'apparition d'une tension alternative sinusoïdale. Plus vous pédalez vite, plus la tension augmente, plus votre phare s'allume fort, et plus la fréquence de ce courant alternatif est élevée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un courant alternatif? Ça veut dire que la tension change de sens plusieurs fois par seconde. La tension, elle est à zéro. Puis, bon, par exemple, pour l'exemple de notre dynamo, elle va monter à 6 volts. Puis, elle redescend à zéro. Puis, elle descend encore à moins 6 volts. Puis, elle remonte à zéro, etc. Elle monte, elle arrive à zéro, elle descend, elle remonte, elle arrive à zéro. Et ceci, ben ça dépend de la vitesse à laquelle vous pédalez. Mais chaque fois que l'aimant fait un tour, vous avez ça, une onde positive, une onde négative. Et si on trace une courbe de la tension en fonction du temps, c'est-à-dire on met la tension sur un axe vertical et le temps sur un axe horizontal, eh bien, on obtient une courbe qui s'appelle une sinusoïde. C'est un peu une courbe en forme de vague avec une crête. La crête de la vague en haut, elle est à 6 volts, et le creux de la vague en bas, il est à moins 6 volts. Le courant du secteur, il fonctionne sur le même principe, avec des alternateurs plus compliqués qu'une dynamo, évidemment. Il fonctionne sur le même principe, à ceci près que la valeur de la tension et la fréquence sont régulées. 220 volts en moyenne et 50 rotations par seconde. Il y a de la même façon des oscillations sinusoïdales. 310 volts, 0 volts, moins 310 volts, 0 volts, plus 310 volts, 0 volts, etc., etc. 310 volts en crête, parce qu'on vous dit 220. 220, c'est la moyenne. En fait, il y a des crêtes à 210 volts et des creux à moins 210 volts. Voilà. Et ça tourne à 50 tours par seconde, c'est-à-dire que 100 fois par seconde, le courant change de sens. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et ça, ça change 100 fois par seconde. Et un tour correspond à une phase positive et une phase négative. Enfin, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, c'est un tour. Si on applique cette tension sur un convecteur, sur une lampe à incandescence, la tension et l'intensité sont strictement synchrones. C'est-à-dire que quand la tension monte, l'intensité monte exactement en même temps. Quand la tension est à son maximum, l'intensité est aussi à son maximum. Tension et intensité suivent une courbe en forme de vague et les courbes de tension et d'intensité sont superposables et synchrones. Maintenant, si on applique cette tension sur autre chose comme appareil, sur un moteur, et les moteurs, il y en a partout chez vous, hein, il y en a dans le lave-vaisselle, dans le lave-linge, dans l'aspirateur, dans le sèche-cheveux, dans la moulinette pour faire la cuisine, enfin bref, il y en a partout. Par exemple, notamment si vous avez une piscine, dans la filtration de la piscine. Alors, si vous faites passer cette tension dans un moteur ou dans des lampes à basse consommation, vous savez, ces lampes chinoises là, qui sont spiralées, là, eh bien, il y a un déphasage qui apparaît. Un déphasage. Ça veut dire que l'intensité prend du retard sur la tension. Les deux courbes sont décalées dans le temps. Ce n'est plus au moment où l'aimant de notre dynamo est à l'endroit où la tension est la plus forte que l'intensité est la plus forte. En fait, la montée de l'intensité est en retard. Ça n'est que quand l'aimant a encore tourné d'un certain angle que l'intensité arrive à son maximum. Il y a donc un décalage entre le maximum de tension et le maximum d'intensité. Et ce décalage, eh bien, on le traduit par un angle, puisque l'aimant de votre dynamo, il a déjà tourné d'un certain angle avant que l'intensité arrive à son maximum. Cet angle, on l'appelle l'angle phi. C'est comme ça qu'on l'appelle en électricité. Et la puissance réelle que vous consommez, qu'on vous fournit, elle se calcule en watts par la formule suivante. Puissance en watts égale tension en volts que multiplie l'intensité en ampères que multiplie le cosinus de l'angle phi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cosinus ? Ben, c'est une fonction mathématique. Et c'est toujours inférieur ou égal à 1. Alors pour un convecteur, il n'y a pas de décalage. L'angle phi est égal à 0, le cosinus de l'angle phi est égal à 1. La formule de la puissance, c'est 220, puisque 220 volts. Alors donc 220, que multiplie l'intensité, que multiplie 1. Bon, multiplier par quelque chose par 1, ça ne change rien. Hein. Pour les autres appareils, il y a un décalage. Le cosinus phi, en général, il va se situer, selon les appareils, entre 0,6 et 0,8. Les moteurs, généralement, c'est 0,8. Donc, la formule de la puissance, pour ce qui concerne les moteurs, ça va devenir puissance en watts égale 220, que multiplie l'intensité, jusque-là c'est pareil, mais que multiplie 0,8. Si on l'exprime autrement, ça veut dire 80% de 220 que multiplie I, que multiplie l'intensité. Ce que vous consommez, c'est ça, 80% de 220 que multiplie I. Et c'est ce que votre compteur actuel vous facture. Le nouveau compteur Linky, lui, il ne calcule plus la puissance en watts, mais en volts-ampères. Ce qui veut dire que la formule, eh ben, elle est simplifiée, il n'y a plus de cosinus phi. Il vous fournit donc, il vous facture donc plus que ce qu'il vous fournit. Là où vous consommiez 80% de 220i et vous payez 80% de 220i, eh ben, comme il n'y a plus le cosinus phi, eh bien, vous allez désormais payer 100%. Il supprime le 0,8 dans la formule. Alors, pour les moteurs, c'est 0,8. Pour les ampoules basse consommation fabriquées en Chine, c'est 0,6. Ce qui veut dire que la différence sera très importante. Alors, il y a des mesures comparatives qui ont été faites par l'association Next Up. L'association Next Up, c'est une des associations que vous pouvez, dont vous pouvez regarder le site sur Internet. Next Up, ça s'appelle NEXT-UP. Ils ont fait une étude, enfin une expérience. Ils ont mis 1000 watts de lampe basse consommation. Ils ont fait toute une rangée de lampes. Ils en ont mis pour 1000 watts pendant 10 heures. Ils ont branché ça d'abord sur un compteur normal, puis sur un compteur Linky. Ben, dans le premier cas, ils ont eu une consommation de 6 kWh et sur le compteur Linky, 10 kWh. Enfin, 10 kV-ampères, plus exactement. Voilà. Voilà où se situe l'arnaque au niveau de la consommation. C'est le même problème... avant de dire ça... Alors, évidemment, on ne peut pas vous dire que vous allez consommer 10 ou 20% de plus, que vous allez payer 10 ou 20% de plus, parce que ça dépend de la répartition de vos appareils. Si vous n'avez chez vous que des convecteurs électriques et que vous faites la vaisselle à la main... ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si vous avez un chauffage au fioul et que vous avez plein d'appareils électriques du genre lave-linge, sèche-linge, etc., etc., et ben ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer complètement votre facture. Donc, on ne peut pas dire que vous allez avoir tant de factures en plus parce que ça dépend un peu de vos appareils, de ce que vous avez comme appareil. Alors, le problème du cosinus phi... Il a aussi une autre incidence qui est sur la puissance maximale dont vous pouvez disposer. À partir du moment où le cosinus phi disparaît de la formule, l'intensité disponible diminue. Si par exemple vous aviez 90 ampères de disponible à votre disjoncteur, vous n'en aurez plus que 81. Si vous êtes un peu juste au point de vue puissance, ben vous serez obligé de prendre un abonnement plus cher. Voilà pour l'aspect financier. Encore que j'ai d'autres choses à vous dire, mais ça viendra après.
Suspense.
Alors, en plus de vous démolir la santé et de vous coûter plus cher, ce compteur Linky aura d'autres inconvénients. Si jamais vous avez une domotique personnelle, c'est-à-dire que vous commandez automatiquement votre porte de garage, votre chauffage... l'éclairage de scie, la fermeture des volets roulants, etc., il y a de fortes chances pour que le compteur Linky interfère avec tous ces appareils. Parce que finalement, les informations, elles risquent fort de passer par le même canal, à savoir des ondes CPL dans votre réseau électrique. Et il se pourrait bien qu'il y ait des interférences. Même sans domotique, on signale d'ailleurs des pannes inexpliquées d'appareils, parce que les appareils ne sont pas faits pour recevoir des courants électrique à 390 kHz, c'était pas prévu pour. Hein. Et on a même signalé des incendies. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais le répéter, au Canada, dans l'État de l'Ontario, les compteurs intelligents fournis par l'Andicégir et installés par la société Hydro One, le fournisseur d'électricité Hydro One, sont en cours de démontage après des milliers de plaintes. Et il faut savoir que l'Andicégir, qui fabriquait leur compteur, c'est aussi un des fabricants du Linky. Voilà. Après, il y a l'espionnage de toutes vos données personnelles.
Oui, parce qu'alors là, on va tout savoir sur le nombre de personnes qu'il y a à la maison. On ne peut pas avoir le détail des appareils qui ont tourné, quand même.
Ben si.
Si.
Si, puisque tous les appareils récents... sont équipés de puces. Ça a été fait, ça, totalement à l'insu
des consommateurs.
Mais tous les appareils récents, bon, peut-être que sur un fer à friser, il n'y en a pas, ça c'est probable. Mais en tout cas, sur un lave-vaisselle, sur un téléviseur, il y a des puces. Il y a des puces qui permettent d'identifier l'appareil. Je ne sais pas jusqu'où va l'identification. Est-ce que ça va jusqu'au numéro de série? Ça, je ne suis pas sûr, mais enfin... en tout cas, le type de l'appareil, oui. Alors, toutes ces données, Linky va être capable de les récupérer, de savoir quel appareil fonctionne, combien il consomme. Et il va les transférer vers un énorme centre informatique qui lui aussi va consommer pas mal d'électricité. ERDF va donc stocker des données qui permettent de savoir finalement quand vous consommez, donc quand vous êtes là, quand votre lave-vaisselle fonctionne, combien de fois vous ouvrez la porte du frigo la nuit, quel film vous regardez. Alors là, vous vous dites, mais comment c'est possible qu'ils sachent quel film on regarde ? Eh bien, chaque film a son empreinte énergétique, grâce à l'alternance de scènes claires et sombres qui influent sur la consommation électrique. C'est-à-dire que, quand vous regardez un film, mais effectivement, il y a des scènes claires, des scènes sombres, et ça crée une empreinte énergétique, parce que votre appareil de télévision, il consomme plus quand il y a une scène claire que quand il y a une scène sombre. Donc on peut très bien comparer le profil de votre consommation au profil type de la consommation d'un téléviseur quand il fonctionne avec tel film. Bon, j'imagine que ces données n'intéressent pas ERDF. Hein? Mais ces données, elles peuvent être vendues à des personnes que ça intéresse. Et on ne s'en privera évidemment pas. Parce que chaque fois qu'on nous a dit « Non, rassurez-vous, vos données, on les divulguera pas, on va les garder bien secrètes, etc. etc. » Bon, enfin, vous savez bien que quand vous avez le malheur de commander quelque chose sur Internet, après, vous recevez sur votre mail
la pub immédiatement.
De la pub, voilà, hein, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vos données, elles ont été vendues. Hein. Voilà. Alors, on peut imaginer beaucoup de choses. Votre patron peut savoir si vous êtes chez vous. Si vous êtes en congé de maladie, par exemple. Le recruteur, celui avec qui vous avez rendez-vous, là, il peut peut-être savoir quel genre de film vous regardez, quel genre de personnalité vous avez. Les organismes de vente, n'en parlons pas. Votre mutuelle. Parce que si vous ouvrez la porte du frigo 10 fois dans la nuit, c'est que vous êtes un boulimique. Donc le risque de santé est le plus important, c'est clair. Bon. Le ministère de l'Intérieur, évidemment qu'il y aura accès à tout ça. Enfin, n'importe qui y aura accès. Parce que le Linky, comme tout appareil informatique, sera évidemment piratable. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'État, qui est censé assurer notre sécurité, met en danger notre santé en nous plongeant dans un... Enfin, en augmentant notre immersion dans les ondes avec ce compteur, tout ça pour un appareil qui, contrairement au portable, ne sert strictement à rien au consommateur. Bon, pour le portable, on peut dire bah, c'est dangereux, mais c'est vrai que c'est utile. Le Linky, c'est dangereux, ça ne sert strictement à rien pour le consommateur. Rien de rien de rien. Alors, on peut expliquer ça. Bah, l'État possède 85% des parts de RDF. ERDF est quand même en difficulté financière. Jamais on a prévu dans les comptes de ERDF le démantèlement des centrales nucléaires. Et ça va coûter au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. En plus, ERDF rachète à perte l'électricité des compteurs, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Ça coûte cher aussi, ça. Et EDF va devoir sauver Areva. Areva. Il y a eu une séparation entre Areva et EDF. Bon, mais Areva est dans la panade au point de vue financier. Areva doit supporter les énormes surcoûts de la construction du réacteur de Flamanville. Le budget il a déjà été multiplié par 3 et c'est pas fini. Et en plus, il y a des fissures dans la cuve. Areva a acheté au Canada... pour 3 milliards, un gisement d'uranium qui est inexploitable. C'est le scandale Uramine. U-R-A-M-I-N. Ça aussi, vous pouvez regarder sur Internet. Le scandale Uramine qui a été dénoncé notamment par Mediapart. Par l'agence de presse Mediapart. On nous dirait, bon, on a mal géré, on a déconné, on a été imprévoyant, il va falloir augmenter vos tarifs. On est désolé, mais il faut le faire. Ça serait encore acceptable. Mais là, on essaye de nous faire passer la pilule en douceur, au risque finalement de nous rendre malades en nous exposant à toutes ces ondes CPL du Linky. vraiment, le Linky ne sert à strictement à rien, n'apporte aucun bénéfice au consommateur et ne lui apporte que des inconvénients. Des inconvénients financiers, mais surtout, et avant tout, des inconvénients sur sa santé. Et pour tout dire, l'État, il a encore une bonne raison de pousser au Linky.
Laquelle ?
Alors, Linky, il sera capable de savoir si votre consommation est liée à tel ou tel appareil. Donc, il sera capable de savoir si votre consommation est liée au chargeur de batterie de la nouvelle voiture électrique que vous venez d'acheter. Figurez-vous que la taxe intérieure sur les produits pétroliers, elle a changé de nom. Elle s'appelle maintenant taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. Tiens donc. Puisque Linky sera capable de détecter que c'est le chargeur de votre voiture qui est en train de consommer, ben il sera chargé, il sera capable de vous facturer ça à un tarif supérieur qui va inclure la TICPE. Donc c'est un argument de plus pour que, effectivement, l'État soit d'accord pour le Linky. Bien sûr, dans l'histoire, ce qui est scandaleux, c'est que aucune étude d'impact sur la santé n'a été faite. Et si aucune étude d'impact n'a été faite, on peut supposer que, très vraisemblablement, enfin quasiment avec certitude, cette étude d'impact aurait été défavorable à l'installation du Linky. C'est clair et net. Alors, comme moi, je n'ai pas l'intention de vous asséner mes convictions sans vous donner des preuves et sans vous expliquer, j'ai essayé le plus possible d'expliquer, de donner des indications. Alors, je vais vous donner toute une liste de sites, enfin de références qu'il faut aller consulter sur Internet, parce que c'est quand même Internet, c'est quand même un merveilleux moyen de faire passer des informations. Alors, bien sûr,
elles
ne sont pas toutes vraies.
Ouais.
Hein, bien sûr, elles ne sont pas toutes vraies. Il faut faire le tri. Mais quelque chose qu'on n'arrive pas à faire passer dans la presse, on le fait passer très bien sur Internet. Voilà. J'ai essayé, moi, de faire passer ce que je vous ai dit dans la presse. Je n'ai pas réussi pour le moment. Par contre, sur Internet, ça passe sans problème. Bien. Alors, il faut chercher Comobio. C-O-M-O-B-I-O. Là, vous allez tomber donc sur la description d'une étude qui a porté sur la toxicité des portables sur les rats. Et ça sera suivi d'une étude statistique sur l'utilisation précoce du portable chez l'enfant et la multiplication des cas de tumeurs cérébrales. Vous pouvez aussi vous connecter sur la CRIIRM.
Alors, ça s'écrit comment ?
Alors, je vais épeler. C-R-I-I-R-E-M. Centre de recherche et d'information indépendant sur les radiations électromagnétiques. C'est un très bon site sur lequel il y a plein de renseignements. Hein? Je répète, C comme Charlie, R comme Roméo, I comme India, I encore comme India, R comme Roméo, E comme Echo et M comme Mike. Il y a Robin des Toits. Robin des Toits aussi, c'est un site très intéressant où il y a plein de choses. Et vous y trouverez notamment une lettre type qui va vous permettre d'écrire à l'EDF pour les informer que vous ne voulez absolument pas du compteur Linky.
Donc on peut agir en tant que particulier, bien
agir.
Sûr. Sans, le mieux, ce serait quand même que...
L'idéal, c'est que la commune refuse.
Voilà.
Ça, c'est l'idéal.
Commune, communauté de communes. Donc on a pu voir qu'il y a 12 communes pour l'instant en France qui ont refusé. Et ça s'ajoute...
Et ça augmente régulièrement.
Ça augmente régulièrement. Donc on peut trouver la liste des communes qui ont refusé.
Oui, alors on peut trouver la liste des communes qui ont refusé. Il y a une dizaine de jours, il y en avait 3. Maintenant, il y en a 12. Hier, il y en avait 11. Ça augmente tous les jours. Alors pour avoir la liste des communes qui ont refusé, il faut taper sur votre moteur de recherche refus, R-E-F-U-S, point, Linky, L-I-N-K-Y, point, Gaspar, Alors Gaspard, c'est un compteur à gaz qui lui aussi est connecté. Ça s'écrit G-A-Z-P-A-R. .free.fr. Alors là, vous avez la liste qui est actualisée de toutes les communes qui refusent. Elle est actualisée quotidiennement et, voilà, et ça semble changer tous les jours. Alors, vous pouvez aussi consulter le site Priartem, qui veut dire pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Ça s'écrit P-R-I-A-R-T-E-M. Et eux, ils semblent un peu orientés aussi vers les électro-hypersensibles. Et puis, vous pouvez aussi consulter le site de NextUp. NextUp, c'est aussi une association qui lutte contre les ondes électromagnétiques, NEXT-UP. Et enfin, si vous voulez encore des informations supplémentaires, vous pouvez voir des extraits d'un film qui commence à être un petit peu ancien, qui s'appelle « Les sacrifiés des ondes ». Dans ce film apparaît le professeur Montagnier, qui est prix Nobel de physiologie et de médecine, et qui vous explique effectivement la nocivité des ondes électromagnétiques. Ben, c'est pas un rigolo, hein ? C'est sérieux, un prix Nobel, quand même. Ça mérite que on s'y intéresse.
D'aller voir, voilà. Donc, extrait du film « Les sacrifiés... »
« Les sacrifiés des ondes ».
Des ondes.
Ce film est disponible en CD, mais il faut l'acheter. Par contre, sur Internet, il y a des extraits. Alors, j'ai envie de conclure un peu. Je dirais il faut se méfier des experts, il faut se renseigner soi-même et il faut se révolter. Je pense faire prochainement une conférence avec des vidéos sur Digne-les-Bains. J'ai pas encore la date, mais je vais essayer de faire passer ça par affiche et puis dans la presse.
Alors je vous demandais tout à l'heure, Joël Delannoy, si vous aviez justement écho, puisque vous avez distribué déjà des prospectus pour informer le voisinage dinois sur cette émission spéciale aujourd'hui sur Fréquence Mistral. Est-ce que vous avez rencontré de nombreuses personnes qui vous ont dit quoi à propos de Linky, par exemple ?
J'ai rencontré quelques personnes, mais pas beaucoup. J'ai distribué des argumentaires, un peu le même genre que ce que je vous ai dit là, mais en plus simple, parce que je ne veux pas distribuer cette page à tous mes voisins, mais j'ai déjà distribué des argumentaires. J'ai eu peu de retours, quelques-uns. J'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah bon, mais qu'est-ce que c'est le Linky ? On n'a jamais entendu parler. » Enfin, merci de nous en parler. Et puis j'ai eu aussi des gens qui étaient au courant, qui savaient qu'il y avait des problèmes. Alors certains savaient que c'était une arnaque financière, d'autres savaient que c'était un problème au niveau de la santé. En fait, c'est les deux. Il y a quelqu'un de mes voisins qui... J'étais en train de me promener sur le trottoir, il s'est arrêté pour me dire « Ah, merci de nous avoir envoyé ce papier. » Maintenant, je ne sais pas... qui m'aura écouté. On verra bien.
En tout cas, cette émission, on la mettra en ligne très rapidement sur le site de Fréquence Mistral dans les émissions donc Quartier Libre, l'antenne de Digne. On peut trouver aussi sur internet www.fréquencemistral.com. On clique sur l'onglet de Digne et émission Quartier Libre et on pourra réécouter à loisir et puis nous la rediffuserons également dans les jours à venir. Pour ceux qui ne l'auraient pas, qui n'auraient pas ni Internet, ni écouté l'émission, voilà. Eh bien, oui, je voulais quand même vous demander, Patricia Granet, notre maire de Digne-les-Bains, est-ce que vous avez essayé de lui en parler, de savoir son point de vue, et sachant qu'elle est également présidente de la communauté de communes, ça pourrait être intéressant d'avoir son point de vue et de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ces installations sur notre ville.
Je ne sais pas où on en est. J'ai écrit 3 courriers à Madame Granet. Je n'ai pas eu de réponse précise. Enfin, elle m'a dit qu'elle transférait mon courrier au directeur de la commission énergie du département. Apparemment, la mairie serait d'accord pour me fournir une salle pour ma conférence prochaine. Donc, j'espère une audience. J'ai l'impression que j'ai une audience favorable, mais je n'ai pas de retour précis. Voilà.
Et en tout cas, donc, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas obligatoire d'accepter l'installation de ces compteurs chez soi.
Non, pas du tout, c'est pas obligatoire.
Et alors, qu'il n'y a pas de conséquences si on refuse. On ne risque pas d'être attaqué par qui que ce soit.
Ben, écoutez, c'est apparemment anticonstitutionnel d'imposer un produit connecté à quelqu'un. Ça n'est pas légal. Et puis, vous avez un contrat avec l'EDF. Ce contrat, c'est de vous fournir un courant à 50 Hz. Ce n'est pas de vous fournir un courant à 50 Hz parasité par du 400 kHz. Le contrat ne peut pas être comme ça unilatéralement changé par ERDF. Il faut bien qu'il y ait votre accord. Alors évidemment, il ne faut pas compter qu'ils vous demandent votre accord signé. Hein, comment ça va se passer? Ils vont vous dire, voilà, tel jour on va passer. Il faut leur dire, il faut leur envoyer un courrier avec accusé de réception et leur dire, non, vous ne passez pas parce que j'en veux pas. Si vous dites rien, ils vous le mettront, que vous soyez là ou pas. Enfin, évidemment, si le compteur est à l'intérieur de votre maison, ils seront obligés que vous soyez là. Mais s'il est sur la rue,
Et alors, qu'en est-il des locataires?
Les locataires, oui, c'est une très bonne question. C'est seulement le propriétaire qui peut s'y opposer.
D'accord.
Le locataire apparemment ne peut pas s'y opposer. C'est le propriétaire qui peut s'y opposer.
Donc c'est intéressant que les propriétaires aillent à notre conférence,
C'est intéressant que les propriétaires se renseignent pour le bien-être de leurs locataires. Et puis, quand on s'apercevra que le Linky est toxique, je suppose que le fait d'avoir chez soi un compteur Linky, ça serait un handicap pour louer.
Oui.
Voilà.
Et les conséquences pour les communes, alors, est-ce qu'il faut du courage pour s'opposer?
Oh, je pense pas qu'il faille un courage extraordinaire, puisque les installations électriques, en fait, sont propriété de la commune. Les communes en donnent la gestion à l'ERDF. Il y a des contrats entre les communes et ERDF. Les communes en donnent la gestion à ERDF. Mais les installations sont propriété des communes. Et si les communes disent, nous, on ne veut pas installer de concentrateurs sur les transformateurs EDF, eh bien, le Linky ne peut pas être installé. Et puis, c'est tout.
Ce chantage possible, donc, des 19 euros par mois pour dire, voilà, on va venir relever votre compteur tous les mois et ces 19 euros par mois, ça aussi, on peut éventuellement...
Ouais. Moi, j'ai tendance à penser que les associations de consommateurs vont trouver à juste titre que 19 euros par mois pour relever un compteur tous les 6 mois, c'est manifestement abusif, d'une part, hein, et que l'EDF ne pourra pas tenir ça, et d'autre part... je vous dis, compte tenu de la surfacturation que va provoquer l'arrivée du compteur Linky, à moins qu'on consomme presque pas d'électricité, on sera pas perdant. Parce que si on paye l'électricité toujours à l'ancien tarif, on la paiera quand même moins cher qu'au nouveau tarif. Donc l'un compensera l'autre. Il n'y a guère que les gens qui consomment presque rien qui pourraient en arriver à payer plus.
Mais alors, voilà, on va se quitter là-dessus. J'avais quand même envie de citer les quelques villes recensées à ce jour. Voilà, il y a Saint-Macaire dans le 33, Varennes-sur-Seine dans le 77, Premery dans le 58, Le Barpe dans le 33, Lieuche dans le 06, Varade dans le 44, Villiers sous Grèze 77, Bas-de-Folle-sur-Dordogne dans le département 24, Larnode dans le département 25, Courgis dans le 89, Saint-Caprès-de-Lalinde dans le 24 et Calès dans le 24. Voilà un département donc qui a plusieurs communes qui se sont opposées à l'installation du compteur Linky. Joël Delannoy, merci. Et puis, vous nous tenez au courant, bien sûr, de la date de votre conférence.
D'accord. Alors, cette conférence, il y aura des vidéos.
Ça sera un complément, parce que c'est vrai que c'est assez technique, tout ce que vous nous avez expliqué.
Oui, je comprends aussi. Il y a une partie qui est un peu technique, c'est vrai.
Merci beaucoup et on rappelle que cette émission sera donc en ligne sur notre site fréquencemistral.com, onglet de Digne-les-Bains. Au revoir, à bientôt.
Kick back, smoke a fat ass joint.